Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans Le Meilleur des Mondes, l'émission de France Culture qui s'intéresse aux bouleversements suscités par le numérique et les nouvelles technologies. Et ce soir, nous tentons de mieux comprendre la situation des travailleurs de plateforme, ces chauffeurs, livreurs, qui sont entrés dans nos vies et qui incarnent les promesses de la désintermédiation. Comment leurs conditions de travail se sont-elles dégradées au fil des années et que reste-t-il de leur mobilisation en Europe? L'Union européenne, justement, vient de trouver un accord, une directive censée mieux les protéger après d'âpres négociations où les lobbies imposent à Bruxelles leur discours. Quelle a été la stratégie d'implantation d'Uber et en quoi peut-on dire que la plateforme entretient une forme de capitalisme racial? Quel est le fonctionnement de ce management algorithmique subi par les travailleurs? Jusqu'où peut aller l'exploitation de leurs données personnelles pour déterminer leur rémunération fluctuante? Comment expliquer le positionnement de la France, une start-up nation qui freine certains progrès sociaux? Il s'agira de mieux comprendre ce que nous pouvons attendre de l'application effective de la directive dans notre droit national. Enfin, quelles alternatives proposer face au modèle de l'ubérisation et si l'espoir venait des chauffeurs eux-mêmes structurés autour de coopératives? Beaucoup de questions et trois invités en studio pour y répondre. Sophie Bernard, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue, chercheuse à l'IRISO et autrice de Uber Usé, le capitalisme racial de la plateforme à Paris, Londres et Montréal, publié l'an dernier au PUF. Vous reviendrez sur votre grand travail de terrain pour analyser l'attractivité du métier à ses débuts jusqu'aux dérives du management qui touche une population fragile. Vous nous livrerez aussi votre avis sur cette directive européenne entre réelles avancées et craintes concernant sa mise en application. À vos côtés, Antonio Casilli, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur à l'Institut Polytechnique de Paris et auteur du livre de référence En attendant les robots, enquête sur le travail du clic, paru au Seuil. Au-delà de l'entreprise Uber, vous pourrez analyser les caractéristiques de l'emploi imposé par les plateformes numériques. Vous pourrez également nous détailler les tentatives de structuration en collectif des chauffeurs à travers le monde. Enfin, Brahim Ben Ali connaît bien le terrain de la lutte contre Uber. Bonsoir Brahim. Vous êtes secrétaire général du syndicat des travailleurs des plateformes EFO-INV. En tant qu'ancien chauffeur Uber, vous pourrez nous parler de la dégradation de vos conditions de travail et nous expliquer le difficile combat de la mobilisation collective face à ces poids lourds du numérique. Sans oublier évidemment la note d'espoir que représentent les coopératives de chauffeurs dont vous êtes un acteur. Au programme également, une chronique de Marcus Dupont-Bénard, journaliste chez Numérama. Marcus nous parlera de la série de science-fiction Doctor Who, qui incarne selon lui l'anticapitalisme planétaire. Quant à Juliette Deveau, elle nous livrera son journal d'un monde meilleur. Le meilleur des mondes s'écoute à la radio, en voiture, en taxi ou en podcast, bien sûr, sur l'application Radio France et se regarde sur la chaîne Twitch de France Culture. C'est parti.
Les taxis tremblent et savez-vous qui les fait trembler?
Aujourd'hui, ce que privilégient à la fois les conducteurs et les passagers, c'est la convivialité.
Eh bien, c'est un dénommé Uber.
Donc, j'ouvre mon application.
Qui vous offre un service qui pourrait changer la vie de milliers de citadins.
L'arrivée des VTC a été un choc.
Le rapport montre bien qu'il y a eu énormément d'échanges privilégiés entre le ministre lui-même et entre les membres du cabinet d'Emmanuel Macron.
Ils nous ont vendu un rêve. C'est le rêve américain, on y a cru.
Le chauffeur indépendant, c'est pas lui qui se constitue sa propre clientèle, c'est pas lui qui fixe ses prix, c'est pas lui qui est libre de choisir ses courses. Sous-entendu, le patron, c'est Uber, et l'indépendant derrière, eh ben, il est subordonné à son patron, et donc il doit être salarié.
Pourquoi est-ce que ces emplois-là ne devraient pas subir les mêmes contraintes que les autres, en respect du code du travail, en respect de la fiscalité?
C'est une première mondiale pour Uber. La société américaine change son modèle social en Grande-Bretagne. Uber va octroyer à ses chauffeurs britanniques le statut de travailleur salarié.
Et finalement, ça a vraiment tiré vers le haut, je pense, l'offre de transport particulier de personnes.
Allez, on commence avec vous, Antonio Casilli, et cette directive européenne qu'on va détailler, bien sûr. Elle a été approuvée il y a quelques jours. En quoi annonce-t-elle un moment de maturité, peut-être, avec d'un côté les travailleurs qui ne veulent plus se soumettre et une reconnaissance politique de leur situation difficile?
Alors, vous dites bien, François, c'est un moment de maturité, c'est un moment qui marque aussi un changement dans l'attitude de l'opinion publique européenne, des décideurs politiques européens et évidemment une prise de conscience de la part des travailleurs des plateformes. Parce que cette directive qui est sur le tapis, disons, depuis au moins 2021. On a commencé à la discuter, à la négocier, et par la suite à l'adopter, après la rejeter, après l'adopter à nouveau. Donc c'était un long parcours, mais un parcours qui, en plus, a signifié que d'abord, d'une part, on est arrivé à définir qu'est-ce qu'une plateforme et qu'est-ce qu'une plateforme de travail. Et donc, c'est les chauffeurs, bien sûr, on les a cités. Évidemment, ils sont très visibles, ils sont dans la rue. Et en même temps, il n'y a pas que les chauffeurs. Évidemment, dès que vous êtes à Bruxelles et que vous assistez justement aussi aux assemblées des chauffeurs, des travailleurs des plateformes, on se rend compte qu'il y a aussi énormément de courriers express, donc de livreurs. Il y a aussi des modérateurs de contenu sur Facebook. Il y a aussi des annotateurs, c'est ceux qui entraînent ChatGPT. Donc on commence à voir des professionnalités qu'on n'aurait pas pu soupçonner lorsqu'on imaginait que les travailleurs des plateformes étaient seulement des gens dans le secteur du transport. Et alors, quelle est la nouveauté ? Ben, la nouveauté, c'est que, effectivement, ces personnes qui ont longtemps été considérées comme des travailleurs indépendants, bien sûr forcés à une certaine indépendance, on va dire comme ça, et payés, évidemment, selon des critères qui sont établis par les plateformes sans véritable négociation, sans respect des règles du droit du travail, de la protection sociale, de l'assurance, etc., etc., commencent désormais à être encadrés par une nouvelle directive qui, bien sûr, devra être adaptée et adoptée dans chacun des pays membres et qui doit établir deux choses importantes, la présomption de salariat et la possibilité pour les travailleurs de vérifier qu'est-ce qu'il y a dans l'algorithme qui gère ces plateformes.
Voilà, donc on a bien compris qu'elle devrait être adoptée, vous l'avez dit, dans deux ans, adaptée justement à chaque pays européen, sur ces deux volets que vous avez rappelés, la question du contrat, hein, de la transformation potentielle en lien salarial, et puis du management algorithmique, on va détailler évidemment tout ça, mais peut-être un petit retour en arrière avec vous, Sophie Bernard. Quelles étaient à l'époque les promesses d'Uber à son arrivée ? C'était vraiment les valeurs d'indépendance, de liberté hein, qui étaient mises en avant, et il y avait une vraie attractivité de ce métier-là, de cette nouvelle offre.
Oui, tout à fait. Au moment de l'implantation d'Uber en France et dans les autres pays d'ailleurs, systématiquement, ce qui va être mis en avant, c'est ce rêve d'indépendance, le fait d'être son propre patron et puis par ailleurs aussi des rémunérations élevées. Donc, c'est les deux promesses qui sont faites, qui sont initialement au tout début en fait au rendez-vous, mais qui vont rapidement en fait disparaître. Donc, au début, ce sont des promesses particulièrement attractives parce que ça renvoie aussi au modèle économique d'Uber qui suppose une offre excédentaire de chauffeurs pour satisfaire la clientèle, pour justement lui répondre rapidement. Si vous devez attendre votre chauffeur pendant 5-10 minutes, vous allez passer sur une autre plateforme. Donc justement, l'offre, elle se veut concurrentielle parce que vous avez une quantité de main-d'œuvre disponible et qui va pouvoir rapidement vous répondre dans la minute.
D'où cette promesse effectivement de rapidité pour essayer de contrecarrer l'attente des taxis à l'époque. On connaît bien ce storytelling hein, des patrons d'Uber qui voulaient disrupter le marché des taxis, ce qu'ils ont réussi à faire hein, de par leur expérience personnelle, soi-disant. Brahim Ben Ali, vous avez rejoint Uber assez rapidement. Vous avez répondu à ces promesses sans même d'ailleurs tout de suite savoir que c'était illégal. Hein.
Exactement, on a connu ce modèle sous le modèle de covoiturage, Uber Pop. On nous a promis après finalement de réglementer cette activité-là. Donc on a professionnalisé ce qui est devenu après le VTC. Il y a eu la promesse de l'indépendance. Moi j'ai vu plutôt une fable de Emmanuel Macron qui disait que finalement on allait devenir notre propre patron. Hein. Donc pour moi il y a une conjugaison entre l'ubérisation et la fable de Macron. Et au fur et à mesure du temps on a vu des dégradations s'installer. On a vu que finalement on était.
L'offre elle était vraiment attractive au tout début.
Au début oui, effectivement, elle était attractive, mais en fait, ça a vite déjanté très, très, très vite. Donc, on a vu que finalement, c'était illusoire sur une très courte période. Et c'est à ce moment-là que on a vu aussi l'installation d'un énorme turnover des chauffeurs qui travaillaient temporairement. Pourquoi ? Parce qu'ils se faisaient désactiver du jour au lendemain, sans justification, sans préavis.
Sophie Bernard, vous décryptez d'ailleurs une stratégie chez Uber du fait accompli.
Oui, tout à fait. La stratégie du fait accompli, c'est ça qui était assez intéressant dans l'enquête, parce que ça portait donc sur trois métropoles. Et en fait, la similitude, c'est dans cette stratégie d'implantation et de déploiement de la plateforme. Systématiquement, la plateforme s'implante sans autorisation, sans respecter les règles en vigueur, les régulations. Et puis, donc ça suscite systématiquement des manifestations, des mobilisations, des actions en justice. Et mais tout ça prend du temps. Et donc, pendant ce temps, Uber continue son développement, son implantation, et justement jusqu'à ce que la plateforme devienne un acteur incontournable, où à la fin, justement, on ne peut plus empêcher son développement. En tout cas, ça devient compliqué.
En instrumentalisant d'ailleurs souvent le consommateur, c'est-à-dire que comme l'offre, pour le coup, elle est attractive pour le consommateur, puisqu'à l'époque, c'était des courses qui étaient moins chères, avec un service, on se rappelle tous, des bouteilles d'eau, des bonbons, de la grande voiture, vite teintée, etc. D'un coup, le consommateur s'habitue à cette offre-là, et la réclame.
Oui, et donc ça passe, justement, le consommateur est instrumentalisé. On voit des pétitions de consommateurs qui sont déployées par Uber, qui recueillent pas mal de réponses pour défendre la plateforme. Ils vont aller aussi parfois chercher des chauffeurs aussi. En même temps, en parallèle des manifestations de chauffeurs qui, justement, dénonçaient la baisse des tarifs, on avait des mobilisations organisées, en fait, en sous-main, dans l'ombre, par Uber, pour défendre le modèle.
Voilà, donc on va pouvoir justement revenir sur toutes les stratégies d'Uber pour casser cette mobilisation. Ça a notamment été le cas en Californie, dans les trois métropoles que vous évoquiez, c'était donc Montréal, Londres et Paris. Et vous avez pu, à travers ce travail de terrain sur de nombreuses années, identifier les permanences et la manière dont Uber fonctionne pour pouvoir s'implanter et devenir donc incontournable. Antonio Casilli, comment finalement ces nouveaux chauffeurs vont-ils gonfler les rangs du digital labor que vous avez défini et aussi participer à conceptualiser?
Alors, ils sont des travailleurs de la donnée comme les autres. Ça peut paraître bizarre lorsqu'on parle d'un chauffeur, parce qu'on s'imagine que le travail d'un chauffeur, VTC en l'occurrence, ne soit que de conduire, et donc finalement d'être au volant. Mais les chauffeurs pourront vous dire qu'une quantité importante de leur temps se passe sur une application mobile, ou sur d'autres applications, et donc finalement en train de nourrir des plateformes numérique. Et en faisant quoi? En répondant à des messages, en remplissant des tableaux pour indiquer leur activité, en répondant à des sollicitations, donc des pastilles, des alertes, des annonces, etc. etc. Et ainsi faisant, donc, grosso modo, ils produisent une quantité énorme de données. Donc de ce point de vue-là, il s'agit bien d'un travail digital, au sens de, effectivement, d'abord numérique, mais après un travail du doigt, donc un travail qui est fait en cliquant sur une application. Et ça, c'est la richesse pas vraiment cachée, si l'on veut, de Uber, parce que c'est clair que la stratégie de monétisation, donc pour faire de l'argent, ne passe pas forcément par les commissions prélevées sur les courses. Brahim le rappelait, au début, au moins, ils doivent avoir une offre attractive pour les chauffeurs. Donc ils doivent attirer les chauffeurs en proposant des prix incroyablement intéressants. Mais ils doivent aussi être intéressants pour les consommateurs, donc pour les passagers. Et donc, pour être intéressants pour les deux, ils doivent être, tout simplement, ils doivent fonctionner en perte, économiquement. Mais alors, comment est-ce qu'ils font pour regagner ce qu'ils ont perdu sur les courses? En monétisant les données, typiquement. Donc, il y a eu effectivement des tentatives, ou même des tentatives bien abouties, de Uber et d'autres plateformes, de vendre les données, de les mettre à disposition d'autres entreprises, pour faire de la pub. Ou alors, justement, ils s'en servent pour faire des investissements d'avenir et donc pour utiliser ces données pour entraîner des intelligences artificielles de type particulier.
D'où En attendant les robots, qui est un peu le titre de votre ouvrage, où on comprend que l'humain devient une sorte de matrice, de somme de données, et ces données sont là pour entraîner des logiciels pour permettre peut-être demain d'avoir encore une formule plus déshumanisée, puisque on pourrait être totalement remplacé par des robots. C'est donc bien cette logique économique, et puis c'est intéressant de rappeler tout de même que Uber est seulement rentable maintenant. Non, et en plus ne cherchait pas forcément un objectif de rentabilité pendant des années. Alors c'est tel qu'ils l'ont annoncé sur la rentabilité 2024. Bon, en tout cas, on peut dire que l'objet de la rentabilité n'était pas un objectif, ce qui est donc assez simple pour continuer à installer son propre modèle. À quel moment, Brahim Ben Ali, vous vous êtes dit là ça va trop loin et il faut que je me mette au combat, il faut que je sorte de cette voiture, que je sorte de ce système Uber pour le combattre?
Ma première question à Uber, donc les conditions d'attribution d'une mission. Donc il y avait des inégalités, on constatait qu'il y avait des chauffeurs qui pouvaient avoir un rendement de 4 à 5 courses par jour, et d'autres 15 courses, voire 20 courses. Donc on comprenait pas pourquoi. Certains étaient pénalisés. Moi, j'appelais ça du matraquage algorithmique. Donc à ce moment-là, donc on se réunit, on essaye d'échanger nos expériences pour voir qu'est-ce qui se passe, combien tel profil génère de chiffre d'affaires, comment se comporte donc du coup la plateforme avec tel profil comparé à un autre. Et là, on voit que certains sont pénalisés. Ils sont pénalisés parce que, ben, je prends mon exemple et bien d'autres, on conteste certaines décisions émanant de la plateforme Uber, comme la déconnexion temporaire qui va jusqu'à 8 jours. Pourquoi ? Parce que j'ai refusé certaines missions qui, pour moi, tout simplement en tant qu'indépendant, ne me permettaient pas donc du coup de générer des bénéfices. J'étais à perte. Et là, incompréhension totale, lorsqu'on rappelle encore le rapport qu'on a avec la plateforme Uber, c'est-à-dire que nous sommes des indépendants, que c'est une plateforme de mise en relation, et ben en fait, il y a un changement de ton. C'est-à-dire que la plateforme vous dit non, en fait, moi je suis un apporteur d'affaires, mais je vais beaucoup plus loin. Mmh. Aujourd'hui, je suis un donneur d'ordre et vous devez accepter mes conditions. Et si vous n'acceptez pas mes conditions, eh ben, vous pouvez tout simplement arrêter de travailler avec nous, vous êtes libre. Donc, il y a ce mot liberté indépendant, sauf que en fait, la liberté, c'est une autre conception, en fait. Moi, la conception que j'ai, c'est que lorsque je suis un indépendant, je suis censé choisir mes missions. Et si elles ne me plaisent pas du tout, je peux les refuser. Et c'est à ce moment-là que on a vu que énormément de chauffeurs, donc, étaient pris en otage par ce modèle-là, parce qu'ils pouvaient pas s'émanciper, parce qu'ils pouvaient pas aller chercher des clients, parce que les tarifs étaient attractifs. Et donc, on a décidé tout simplement de se réunir et créer un groupe d'opposition à tout ça.
Oui, on peut parler finalement de la liberté d'être esclave d'un système ou pas, ce qui limite finalement les contours de cette soi-disante liberté. Sophie Bernard, en quoi la plateformisation est-elle une sorte de d'innovation du capitalisme racial tel que vous l'avez décrit dans votre ouvrage ?
Alors, c'est une forme d'innovation du capitalisme racial. Alors d'abord, qu'est-ce qu'on entend par capitalisme racial ? C'est que finalement, le modèle économique d'Uber, je le disais tout à l'heure, ça suppose donc une réserve de main-d'œuvre extrêmement importante. Et donc, elle va le trouver du côté, là en l'occurrence, des hommes. C'est plutôt une population masculine. Le secteur des transports, c'est assez classique. Et d'une population racisée. Parce que cette population, justement, elle occupe une position spécifique dans le système d'emploi. Elle est plus souvent victime de... elle fait davantage l'expérience du chômage, du déclassement, à l'assignation à des emplois précaires, pénibles. Et donc, en fait, les promesses, justement, de travail indépendant, de rémunérations élevées, c'est particulièrement attractif pour ces populations parce que, justement, il n'y a, a priori, pas de barrière à l'entrée. Donc, on ne va pas être victime de discrimination, de ce dont ils font l'expérience très souvent sur le marché du travail. Donc c'est une réserve de main-d'œuvre extrêmement précieuse pour Uber. Et ce qui est important à souligner, c'est qu'on a beaucoup communiqué sur le fait que c'est un moyen justement pour les jeunes des banlieues en particulier de trouver un emploi. Et en fait,
un emploi respectable, hein, on se rappelle du discours en disant au lieu qu'ils aillent vendre de la drogue ou faire des petits vols, on se dit voilà, ils vont aller sur un chauffeur Uber, ils vont rentrer sur le droit chemin de la respectabilité.
Ils vont retrouver leur dignité. C'était les termes d'Emmanuel Macron dans cette interview initialement, en effet. Mais ce qui était intéressant, justement, c'est que la majorité de moi, de mes enquêtés, avaient un emploi auparavant. Donc, en fait, ils entrent dans le métier, non pas pour trouver un travail, mais pour trouver un meilleur travail. C'est pour ça qu'ils ont particulièrement cru à ces promesses. Il s'agissait d'améliorer leurs conditions.
A good bad job.
Exactement.
Et je rajouterais aussi, ce qui est important, c'est qu'on a goûté au modèle salarial. Donc, en fait, il faut savoir qu'on accepte la subordination lorsqu'on est salarié. En contrepartie, on a la protection qui va avec. Mais en fait, si vous voulez, nous, quand on va dans l'indépendance, c'est qu'en fait, on veut se soustraire de la subordination. C'est pour ça. Et en fait, finalement, on nous remet dans cette subordination via donc un process algorithmique.
Antonio Casilli, puisqu'on parle justement de capitalisme racial, il en est de même finalement pour l'externalisation des travailleurs des plateformes, où on voit qu'il y a une reproduction des inégalités nord-sud, par exemple.
Tout à fait. Ça, c'était quelque chose qui était très visible. Bon, avec Brahim et avec d'autres organisations syndicales et agitateurs et organisateurs des travailleurs. Donc, chaque année, on s'est vu à Bruxelles pour faire un peu l'état des lieux des luttes en cours. Et cette année, on a eu une surprise. Ben, c'est pas une surprise parce qu'on l'avait largement organisé. C'est de voir arriver aussi des modératrices, des annotateurs et des annotatrices de partout dans le monde. Ils venaient de Venezuela, ils venaient de Kenya, donc des pays qui n'étaient pas forcément concernés par une directive européenne et pourtant qui étaient largement intéressés parce que ce qu'on décide ici en Europe et ce qui va se passer passer en termes de régulation des plateformes ici va impacter aussi les plateformes qui délocalisent ou alors plutôt qui externalisent vers des pays tiers. Et là, on s'est rendu compte de quelque chose de très important et on est en train de le voir dans nos enquêtes en Europe. C'est que ce qu'on observe, ce que par exemple Sophie Bernard a observé sur la racialisation de certains métiers, eh ben, on le remarque aussi sur d'autres métiers des plateformes. Effectivement, on se rend compte que ici, en Europe aussi, on a des personnes qui sont des annotateurs de données ou des modérateurs.
Ce qu'on appelle annotateur, pardon, Antonio Cassini.
Annotateur, c'est des personnes qui, grosso modo, rendent les données brutes qui sont utilisées pour nourrir des intelligences artificielles un peu moins brutes. Donc, le cas classique, ils regardent une photo et ils ajoutent des tags ou des descriptions de la photo ou retranscrivent des bouts de conversation. Donc, ces personnes-là, elles aussi, sont largement racisées, même si leur profil socio-démographique est différent. Il y a énormément de femmes dans ce contexte. Mais par contre, c'est des personnes qui viennent de pays comme l'Iran, Venezuela, Kenya, et qui travaillent pour des plateformes qui, finalement, sont déployées en Europe, en France, en Espagne, et ainsi de suite. Donc, effectivement, il y a encore, disons évidemment, clairement, il y a un côté de racialisation, mais il y a aussi un côté d'insistance sur une sorte de population de migrants, là, en l'occurrence, c'est des migrants, qui sont mis dans cette situation de travailler pour des plateformes, justement à cause de la faiblesse de leur statut. Le cas classique est, je te mets là à travailler sur quelque chose de potentiellement dangereux, par exemple la modération de contenu, qui est psychologiquement dangereuse.
Ça a été prouvé, évidemment.
Voilà. Et, en même temps, tu peux pas protester, parce que, de toute façon, t'as pas... si tu perds cet emploi-là, finalement, tu perds aussi ton visa pour rester en Europe. Et tu dois repartir en Iran, ou en Nairobi, ainsi de suite.
Antonio Cassini parle donc de situations difficiles, de grande précarité. Brahim Ben Ali, vous avez aussi aperçu ça, notamment sur les travailleurs qui n'avaient pas de papier, les personnes sans papier qui ont été embauchées, si je puis dire, enfin du moins qui sont entrées de plein pied dans ce système.
Oui, malheureusement, on le subit encore. Hein. Il y a un phénomène de sous-traitance aujourd'hui. Donc on utilise, moi je l'ai vu, j'étais à San Francisco là-bas, donc même phénomène aussi en France, où on va utiliser un tiers pour se soustraire des obligations. C'est ce que fait Uber. Et donc du coup, la société qui va employer ces fameux chauffeurs va pas du tout regarder en fait les documents réglementaires, c'est-à-dire ça peut être déjà le contrat de travail, la déclaration préalable à l'embauche, et on appelle ça chez nous le phénomène des faux chauffeurs. Il y a énormément de personnes qui devraient même pas être dans le circuit. Mais quand on regarde bien dans les Uber Files, c'est donc un
Uber
vivier.
Uber Files, on rappelle, ça a été cette grande fuite de données qui provenaient des documents internes à Uber.
Et il faut savoir que dans les données, effectivement, on disait que ce vivier était intéressant parce que ça permettait d'augmenter les profits donc, de la plateforme Uber donc, et d'autres plateformes. Donc ce phénomène aujourd'hui est grandissant et il n'y a rien qui est fait pour contrôler ce fléau-là. On est en train d'utiliser des personnes qui ne vont pas aller contester leurs droits parce qu'ils savent très bien qu'ils sont dans une situation de faiblesse totale et donc ils ne vont pas aller, par exemple, je prends l'exemple d'un sans-papier avec qui on discutait, qui disait moi je ne peux pas aller contester parce que je suis en situation déjà donc,
d'irrégularité
et aujourd'hui je ne peux pas moi aller faire valoir mes droits. Donc oui, les plateformes utilisent cette faiblesse-là et c'est pour ça qu'aujourd'hui on se bat pour ça.
Oui, c'est vraiment une logique darwinienne, hein, c'est-à-dire qu'on va retourner les plus faibles contre les moins faibles et on utilise toute cette chaîne finalement humaine. Vous parliez de San Francisco, justement, Brahim Ben Ali, je vais vous faire écouter un extrait d'une chaîne YouTube, Ridershare, qui explique justement, que vous connaissez bien, la manière dont ce management algorithmique s'opère.
If you've been driving for a while, you'll notice that the bonuses that you get are different from the bonuses somebody else gets.
Si cela fait un moment que vous êtes chauffeur, vous allez remarquer que la valeur de vos primes est différente de celle des autres. Vous allez vous rendre compte que plus vous profitez des primes d'une plateforme, plus la somme que celle-ci propose les fois suivantes baisse jusqu'à devenir complètement dérisoire. Le mois dernier, par exemple, je gagnais $170 pour 50 courses avec Uber. Maintenant, la plateforme ne me paye plus que $80, soit $10 en moins. Pourquoi ? Parce que la firme Uber voit, grâce à l'algorithme, que je ne conduis plus que pour elle, donc elle me paye de moins en moins. Et en même temps, Lyft, la plateforme pour laquelle je ne conduisais pas, me propose des primes de plus en plus hautes. Alors les deux week-ends suivants, j'ai conduit pour Lyft, ce qui fait que leurs primes commencent désormais à chuter. C'est comme ça que les algorithmes fonctionnent.
Sophie Bernard, c'est donc une illustration de ce qu'on appelle le management algorithmique, c'est bien ça ?
Oui, tout à fait. Ce qu'on voit bien justement ici, ce qui le caractérise bien, c'est cette opacité des règles. Parce que là, justement, on essaye d'évoquer, de trouver des règles, d'en rendre compte. Mais en fait, c'est quelque chose... c'est des échanges récurrents qu'ont les chauffeurs entre eux que d'essayer de comprendre quelles sont les règles de l'algorithme. Et ces règles sont opaques et elles peuvent changer à tout moment. Mmh. Et c'est cette incertitude qui met vraiment les chauffeurs dans une situation particulièrement vulnérable. À partir du moment où ils ont le sentiment que d'avoir compris le fonctionnement et de pouvoir agir pour en tirer parti ou en tout cas pour s'en sortir, finalement les règles changent.
Ça change.
Et donc en fait ce management algorithmique, il combine des outils qui relèvent d'une forme d'une logique disciplinaire, une sanction qui peut tomber à tout moment. Brahim tout à l'heure a évoqué justement le fait de voir son compte suspendu, désactivé. Ça c'est la logique vraiment de la sanction, logique disciplinaire. Et de l'autre côté, ça cohabite avec une logique gouvernementale, c'est-à-dire qui vise à orienter les comportements, qui a orienté les conduites, tout en donnant le sentiment de préserver la liberté. Mmh. C'est ce qui se passe notamment avec tout ce qui va être majoration des tarifs, par exemple. C'est-à-dire que personne ne vous dit... En effet, Uber ne dit jamais à un chauffeur « Vous allez travailler de telle heure à telle heure, pour telle durée de travail. » Mais en fait, ils y sont contraints par des dispositifs techniques qui orientent leur conduite.
Alors, dans cette directive, justement, il y a la volonté de mieux encadrer l'exploitation de ces données personnelles, de signifier aux chauffeurs, par exemple, lorsqu'elles sont exploitées, utilisées. Brahim Ben Ali, qu'avez-vous vu, aperçu de l'exploitation de vos données personnelles? Alors, on imagine assez aisément que vos trajets, vos performances sur les trajets sont analysées, mais vous allez même plus loin sur l'exploitation de données biométriques, de santé, de données sensibles.
C'est ça, exactement. Moi, j'étais le premier chauffeur à m'intéresser à ces questions-là. J'ai saisi la CNIL, il y a encore des plaintes en cours là-dessus. Moi, j'avais utilisé quelques outils numériques, dont Exodus Privacy, donc, qui permettait tout simplement de savoir les autorisations qui étaient demandées, donc dans mon smartphone, et je voyais en fait qu'il y avait des données qui n'avaient rien à voir avec mon activité. Je voulais savoir en fait ce que faisait Uber avec ces données-là. Donc moi, quand j'ai fait ma demande de données, on m'a donné un jeu de données incomplet. C'est-à-dire qu'on me donnait des petits morceaux, des petits bouts de données. À chaque fois que je demandais mes données, il y avait toujours un retour de la part d'Uber. C'est soit vous demandez des choses inexistantes, soit finalement sur la période demandée, en fait, nous en fait, on n'a pas le droit de garder ces données-là, donc on les efface. Donc il y avait toujours une excuse de la plateforme Uber. Ce que j'ai remarqué moi en fait pour certains profils, parce que bon, on a demandé à d'autres chauffeurs de le faire. Il y a plus de 300 chauffeurs qui ont fait cette demande-là, et on voit par exemple des profils avantagés, d'autres qui sont pas avantagés. Alors pourquoi? Je m'explique. On a par exemple des chauffeurs qui ont l'intégralité de leurs données. Donc dans ces données-là, on voit qu'il n'y a pas tellement d'inégalités parce que c'est des chauffeurs qui travaillent exclusivement avec la plateforme Uber et qui finalement n'ont pas tellement de soucis avec la plateforme Uber. Par contre, pour certains profils, on voit bien qu'il y a des inégalités sur les tracés. On a fait ça avec Paul-Olivier Dehaye, qui est un mathématicien spécialisé là-dedans. On voit par exemple qu'on nous amène dans des longues distances, en dehors donc du potentiel vivier de chiffre d'affaires qu'on pourrait avoir dans le cœur de ville. Et en fait, tout simplement pour nous pénaliser, c'est-à-dire que pourquoi il y a ces systèmes de profilage, on n'en parle pas, mais c'est hyper important.
C'est-à-dire profilage.
Vous êtes tatillon sur la propreté, je vais vous mettre avec un chauffeur qui est tatillon sur la propreté. C'est important parce que ça permet d'avoir donc un retour d'expérience satisfaisant. Et moi j'appelle ça la connectivité amoureuse. Pourquoi? Et c'est un terme, c'est basé un peu sur Tinder, c'est-à-dire que on va essayer de créer un rapport social entre justement le chauffeur et l'utilisateur. Et il faut que l'expérience justement soit positif pour éviter que le client aille chez Bolt ou une autre plateforme concurrente, voyez.
Mais là où il y a une trahison dans cette rencontre amoureuse, c'est que la manière dont la plateforme va utiliser justement les données pour déterminer un profil vous échappe.
C'est ça, exactement. Alors pas tellement, parce que quand on fait l'acquisition de nos données personnelles, on arrive à comprendre justement certains mécanismes et tout ça.
Mais il faut le faire, cette démarche.
Il faut faire la démarche, et c'est très compliqué. Même aujourd'hui, on est devant des remparts qui nous empêchent de comprendre l'intégralité de ce qui se passe. Mais après, on a des personnes comme Antonio Casilli et d'autres qui se sont intéressés à ces questions-là, et on arrive à comprendre certains rouages et tout ça, mécanismes donc de l'acquisition de ces données-là. Et je rappelle qu'il y a encore, dernièrement, Uber a été condamné à 10 millions d'euros d'amende sur la portabilité des données. Et oui, parce qu'on a fait nous-mêmes, c'était une décision, donc du coup, suite à une demande de plus de 173 chauffeurs dont je fais partie. Et aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a encore d'autres demandes sur le non-respect du RGPD, comme les déconnexions arbitraires et j'en passe.
Et si je peux ajouter, parce que c'est aussi quelque chose qui a été décidé décidé dans une cour de justice néerlandaise. Il y a aussi d'autres actions en justice qui relèvent effectivement de la responsabilité de discrimination raciale, effectivement, de Uber. Donc typiquement, il y a eu un collectif et un syndicat anglais qui a monté une action en justice aux Pays-Bas, lieu dans lequel Uber Europe est installé, pour reconnaissance de discrimination liée en particulier à un aspect particulièrement, si l'on veut, violent du traçage algorithmique, le fait que Uber mette en place des systèmes de reconnaissance faciale pour pouvoir accéder à son service.
Oui, Benali.
Je me permets aussi quelque chose de très important, c'est que quand on a fait l'acquisition des données, on a vu pour un même trajet des prix différents. Pour un même trajet, c'est-à-dire que je prends mon trajet à 6h du matin à point A, point B, mais même distance.
Ouais, c'est-à-dire aéroport, centre de Paris,
et
c'est-à-dire
on voit des différences tarifaires énormes, c'est-à-dire 20% moins du prix initial. On l'a vu aussi grâce aussi à l'expérimentation des chauffeurs qui ont tout simplement vu la facturation client et la facturation donc chauffeur. Et en fait, il y a des différences énormes. On voit que la commission d'Uber, c'est plus 25%, mais ça peut monter jusqu'à 60% de commission.
Et concernant l'exploitation des données personnelles de santé, j'ai pu lire ici ou là que justement on pouvait aller voir dans quel état de santé se trouvaient les chauffeurs en puisant sur d'autres applications comme Doctolib. Ça, qu'en est-il ?
Effectivement, moi j'ai fait ça grâce à mes données personnelles et à d'autres données. Donc on a vu que tous les profils qui avaient des problèmes de santé, donc c'est-à-dire, je sais pas, diabète, AVC, accident cardiovasculaire et tout ça, étaient pénalisés. Pénalisés pourquoi ? Parce qu'en fait, tout simplement, dans leur téléphone, ils avaient Doctolib, donc une application, et on a vu que Uber faisait l'acquisition de ces données pour savoir l'état de santé du travailleur. C'est logique, tout simplement pourquoi ? Ben parce que pour Uber, je parle de la société, dans la logique de Uber, c'est tout simplement de se dire, vaut mieux avoir des chauffeurs en bonne santé que d'avoir un chauffeur en mauvaise santé. Pourquoi ? Parce que s'il a un accident,
il y a des problématiques
pendant l'activité, ça pose un gros problème à la plateforme Uber.
Antonio Casilli, juste pour s'arrêter sur ce point-là, parce qu'il n'est pas si anodin tout de même, d'entendre justement Uber puiser dans des applications comme Doctolib pour récupérer les données. Là, on sait très bien qu'on contrevient. On n'a pas besoin de directive européenne pour savoir que là, on est dans l'illégalité. Que savez-vous par rapport à cette thématique-là et c'est ce sujet-là ?
Que c'est un problème qui ne concerne pas que Uber. Malheureusement, les plateformes sont basées sur une circulation plus ou moins sauvage de données, et la raison pour laquelle Uber peut techniquement se permettre d'aller récupérer les données d'une autre application, c'est que le modèle d'affaires de plateformes tierces, ça peut être Doctolib, mais ça peut être aussi d'autres plateformes, consiste à prêter ces données pour que d'autres applications s'en servent.
Pour vous, c'est cette idée qu'avec une application, on autorise. Voilà. Et en autorisant de manière consciente, vous donnez droit à l'exploitation des données.
Une API. C'est la base de la plateforme.
Une porte ouverte.
Une porte ouverte, certainement. Une porte ouverte dans laquelle, effectivement, on peut aller récupérer ce type de données. Alors, évidemment, Brahim dit, c'est logique. Peut-être que du point de vue de Uber, c'est logique. Quand même, c'est extrêmement pervers. Parce que, normalement, si on veut s'assurer de la santé de ces travailleurs, on s'opère pour que les travailleurs soient en bonne santé. Et donc, on s'occupe, par exemple, de couvrir leurs coûts d'assurance et ainsi de suite. Chose que Uber ne fait pas.
En tout cas, cette directive qui vient d'être signée par les États membres, même si on a bien compris qu'il fallait qu'elle soit maintenant mise en application dans chaque échelle nationale, tente de réguler, tente de contrôler justement ce management algorithmique. On se rend bien compte que finalement, lorsqu'on est chauffeur pour Uber, on est un petit peu écrasé par la machine, presque sous ses roues, sous mes roues. Tiens, Under My Wheels par Alice Cooper, c'est tout de suite. Quoi, c'était tiré par les cheveux, Antonio ?
C'est excellent.
Voilà. Porte vers la musique.
France Culture. Le meilleur des mondes. François Saltiel.
Yeah.
Under My Wheels, c'est quoi ce sourire? C'est Alice Cooper qui vous donne envie de rigoler, Antonio Casilli?
Oui, chaque fois qu'il y a Alice Cooper dans la room, je suis absolument ravi.
Mais quel homme international. Et chaque fois qu'il y a Juliette Deveau dans la room aussi, vous êtes ravi. Bonsoir Juliette.
J'espère, bonsoir.
Ça va être l'heure de vos nouvelles.
Les nouvelles d'un monde meilleur. Juliette Deveau.
Et on ouvre ce journal avec une nouvelle du dialogue entre l'Union européenne et les Big Tech. Après s'être entretenue avec les autorités de régulation de la vie privée, l'entreprise Meta a annoncé le 19 mars vouloir réduire de moitié le coût de son abonnement payant mensuel. Alors pour rappel, depuis novembre 2023, l'entreprise qui détient Instagram et Facebook a adopté une stratégie innovante pour se conformer au RGPD, proposer un abonnement payant sans publicité et un autre gratuit mais qui oblige les utilisateurs à consentir à l'exploitation de leurs données personnelles à des fins de publicité ciblée. Une stratégie de contournement très critiquée ces derniers mois, notamment par des associations de consommateurs qui ont décidé d'initier des actions en justice contre Meta. Et c'est en espérant éteindre cette vague de critiques que Meta a annoncé cette baisse tarifaire, proposant de passer l'abonnement payant de 9,99€ à 5,99€, une proposition très mal accueillie par les milieux militants qui contestent la légalité générale de l'approche promue par Meta. Nous saurons bientôt si les autorités régulatrices européennes se contenteront de cette légère inflexion tarifaire ou non. Le gendarme européen de la protection de la vie privée est appelé à se prononcer sur la légalité du modèle payant de Meta d'ici quelques jours.
Et l'on quitte l'Europe avec des nouvelles maintenant du Sahel.
Et oui, c'est la revue scientifique du MIT qui attire notre attention sur une collaboration inattendue des agriculteurs du Sahel se servirait d'images satellites pour améliorer leurs activités de transhumance. Une collaboration atypique que l'on doit à une entité du nom de Projet Garbal, lancée en 2017 et implantée depuis dans 3 pays africains, qui travaille en collaboration avec des centres téléphoniques et agit comme une sorte de GPS intelligent. Les opérateurs téléphoniques répondent aux appels des éleveurs et leur transmettent les informations les plus pertinentes sur leur environnement immédiat, conditions météorologiques, présence d'incendies ou état de la végétation sur leurs itinéraires. Des données très utiles récupérées par ces opérateurs grâce aux données satellites des agences spatiales européennes et américaines disponibles en open source. Une innovation technologique mêlant high-tech et low-tech qui devrait s'avérer très utile dans les années à venir sur ces territoires particulièrement marqués par l'insécurité climatique.
Et l'on conclut ce journal avec des nouvelles du journal Le Monde.
Oui, c'est le journal Le Monde qui fait un peu d'autopromotion dans un long article sur le rôle historique du journal dans la création de la CNIL, vous savez, le gendarme français de la vie privée créé dans les années 70. C'est en effet après la parution d'un article dans le célèbre quotidien en 1974 qui révélait l'existence d'un répertoire informatique développé en secret par le ministère de l'Intérieur que la CNIL aurait été créée en 1978. Ce répertoire informatique du nom de Safari devait permettre aux agents publics d'accéder plus facilement aux millions de fiches de Français mentionnant leur nom, prénom et numéro d'acte de naissance. Mais c'était sans compter le rôle des informaticiens chargés du projet au sein du ministère qui, inquiets des dérives de ce fichage nouveau, décidèrent d'alerter la presse, forçant le gouvernement à abandonner le projet et à convoquer des experts au sein d'une toute nouvelle commission du nom de Informatique et Liberté. Un récit captivant qui permet de souligner la pérennité et l'influence mondiale de notre CNIL nationale et permet de redorer quelque peu l'approche régulatrice dans un monde toujours plus fasciné par l'innovation.
Merci Juliette pour ces nouvelles, dont la dernière, hein, Le Monde qui fait son autopromotion pour rappeler son rôle donc pour la création de la CNIL. Il a fait récemment aussi la promotion d'un partenariat avec OpenAI. On en a parlé la semaine dernière dans les matins de France Culture. Voilà, c'est étonnant de voir aussi certaines évolutions du journal. Nous sommes toujours en compagnie d'Antonio Casilli, professeur à l'Institut Polytechnique de Paris, auteur de En attendant les robots, en compagnie de Sophie Bernard, sociologue, chercheuse à l'IRISO et autrice de Uber Usé, et avec un ancien chauffeur qui n'est pas usé mais en lutte et en combat contre Uber. Il s'appelle Brahim Ben Ali, secrétaire général du syndicat des travailleurs des plateformes FOTI. INV. Et nous parlons donc ce soir de l'ubérisation, de ce moment peut-être où on entrevoit la possibilité de sortir de ce modèle, même si l'on voit que c'est pas simple. C'est d'autant moins simple, Sophie Bernard, que lorsque des mobilisations se mettent en place, lorsque la lutte s'organise, et Brahim Ben Ali en est un exemple ici, mais on voit que cette lutte a été mondialisée hein, dans de nombreux pays, eh bien on voit qu'Uber a déployé des moyens assez importants pour casser ces mobilisations. Comment s'y prend-il ? On a notamment l'exemple californien qui est assez intéressant à cet égard.
Alors en effet, systématiquement, Uber a une force de frappe face à ces mobilisations de chauffeurs parce que Uber dispose de moyens énormes, colossaux au regard des chauffeurs. Donc systématiquement, donc ça passe par notamment il y avait eu cette action en effet aux États-Unis où il y avait eu une tentative de justement salarier les chauffeurs et en fait, ils sont passés par des moyens de communication extrêmement massifs face aux syndicats pour faire une campagne de communication qui a complètement retourné le débat en leur faveur. Mais ça, on le voit systématiquement, des campagnes de communication massive, avancer systématiquement le fait qu'on va détruire des emplois si la plateforme arrête son activité, des consommateurs qui vont perdre un service extrêmement innovant. Mais néanmoins, malgré tout, c'est vrai que la tâche est difficile, mais ce qu'on peut quand même saluer, c'est que les chauffeurs se sont mobilisés, si on prend le cas français, très tôt, puisque Uber s'implante en 2012. Mais en fait, en 2015, on a la chute des tarifs, la baisse des tarifs de 20% et les chauffeurs se mobilisent aussitôt parce qu'en fait, ils sont déjà organisés collectivement. Il y a déjà un syndicat, il y a déjà des associations professionnelles. Donc, ils se sont organisés et c'est à noter parce que on a là des travailleurs indépendants qui sont dans une logique, a priori, donc plutôt de concurrence, qui sont isolés. Donc, beaucoup d'obstacles en fait à cette mobilisation. Et en fait, ils s'organisent collectivement et sur une longue durée. Sachant qu'en plus c'est très coûteux parce que ils n'ont pas de décharge, ils n'ont pas, enfin, en fait ils perdent beaucoup d'argent, ils mettent beaucoup en compte des difficultés aussi dans leur couple parce que ça leur prend un temps conséquent. Donc c'est vrai que moi je voudrais insister sur la durée en fait de cette mobilisation, l'ampleur qu'elle a prise en dépit d'obstacles en fait extrêmement importants et une mobilisation juste pour terminer, une mobilisation qui prend la forme d'un mouvement, d'une mobilisation de salariés. Elle se tourne vers les organisations syndicales salariées, ce qui questionne à nouveau encore d'ailleurs leur statut. Justement.
C'est intéressant, Antonio Casilli, parce qu'on voit qu'on a une sorte de riposte à la volonté d'atomisation justement du travail.
Oui, et je dirais que c'est intéressant et c'est presque intriguant le fait que effectivement on retombe dans la logique salariale dans la mesure où aujourd'hui encore le salariat et l'emploi formel garantissent avant tout une protection et limite après tout la subordination. Donc pas surprenant que par exemple le syndicat de Brahim soit rattaché à FO, que les Teamsters en Californie par exemple soient présents sur le terrain des chauffeurs Uber depuis la moitié des années 10 et que plus récemment on voit en effet une tentative de syndicalisation de un nombre vraiment important de métiers liés aux plateformes. Parce que là on parle des chauffeurs mais ce qu'on a vu depuis le Covid, c'est que c'est surtout les livreurs qui sont partout et tout le temps dans la rue et partout dans le monde parce que c'est un mouvement qui est lié à des histoires ou plutôt à des raisons qui rassemblent beaucoup à la question de la tarification des courses sur Uber. Donc avec l'arrivée du Covid, on a vu une baisse vraiment importante des tarifs sur les plateformes de livraison et donc les livreurs qui s'organisent et comme ils étaient les seules personnes qui circulaient en temps de lockdown, c'était les seules personnes qu'on voyait dans la rue en temps de protester. Et donc on a vu effectivement en Espagne, dans les pays d'Amérique latine, à Singapour, en Indonésie, des livreurs qui protestaient.
Et même aux États-Unis où la culture syndicale n'est pas forcément la plus prominente, où on a vu effectivement au sein des big tech ce mouvement s'organiser. Juste pour revenir sur la notion du lien salarial, on a aussi un exemple fameux en Europe avec l'Espagne et la loi Rider qui présume qu'automatiquement le chaque coursier de plateforme pourrait devenir salarié. Alors on sait qu'il y a eu certains moyens de la contourner, cette loi-là. Néanmoins, Brahim Ben Ali, c'est pas forcément votre première revendication de devenir salarié.
Non, du tout. Enfin, il faut savoir que quand, pour beaucoup d'entre nous, on a goûté au modèle salarial, c'est parce que de l'autre côté, il y avait donc la subordination, mais il y avait la protection. Quand on s'est dit, voilà, pour certains, on veut devenir indépendant parce qu'on veut goûter donc à ce statut d'être patron, d'avoir cette liberté, de pouvoir travailler à l'heure que je veux. Et surtout, voilà, de moi-même pouvoir choisir non seulement, parce que c'est, on appelle ça le portefeuille client, choisir les clients avec qui je veux donc contractualiser tout ça, mais aussi décider de ma tarification. Et le problème, c'est que sous le modèle de plateforme, ça n'existe pas en fait, c'est illusoire. En fait, on nous fait croire ça, on ne décide de rien du tout.
Mais même si donc vous êtes salarié demain, vous allez vous n'aurez
ça pas. Ça nous intéresse pas. Voilà. Ça nous intéresse pas du tout parce que on le voit déjà. Donc le rapport déjà qu'a Uber avec déjà les indépendants, donc est terrible. Imaginez-vous avec donc du coup des travailleurs comme les VTC et les livreurs salariés. Enfin, je pense que on va vite déjanter quoi. Donc je pense non, il y a un moment, il faut dire clairement les choses. Soit on est salarié. Et donc, on a donc les protections adéquates donc du modèle salarial, et j'y crois, puisque c'est pour ça que je me suis battu dans cette directive européenne, soit on est indépendant. Sauf que, d'un pays à un autre, le modèle salarial n'est pas le même. Mmh. Donc, en France, effectivement, on est content d'avoir cette protection, et on sait très bien que, demain, si on est salarié, effectivement, on aura toutes les protections adéquates, on aura donc les négociations qui vont avec, et j'en passe. Mais Uber ne veut pas. Parce que ça leur coûte très très cher et parce que le modèle Uber ne tiendra pas. Donc c'est pour ça qu'ils font appel donc du coup au statut d'indépendant, mais ce qu'ils veulent eux, c'est un statut hybride. C'est-à-dire tous les avantages du modèle indépendant, tous les avantages du modèle salarial et tous les inconvénients pour les travailleurs.
Quelle a été, Sophie Bernard, si vous avez ces données-là, parce que l'Espagne et la capitale espagnole n'a pas fait partie justement des métropoles que vous avez visitées, mais le bilan de cette loi Rider de 2021 ?
Alors là, j'aurais pas en effet les éléments.
On s'est rendu compte finalement que non seulement, comme vous l'avez dit, c'était pas forcément une attente, et en plus, il y avait des moyens de la contourner.
Sur la loi Rider, si je peux me permettre, on a une plateforme qui s'appelle Just It qui était venue justement, elle a été auditionnée donc lors d'une commission du sénateur Olivier Jacquin. Il y avait aussi la députée Laila Shaibi là-dessus où on s'est posé la question pour savoir en fait qu'est-ce qui se passait. Donc avec cette loi Rider, bah ils nous ont dit clairement que depuis qu'elle a été mise en place, effectivement, le comportement de certaines plateformes avait changé. Et du coup, il y avait plus ces espèces d'inégalités entre les plateformes et que certaines plateformes s'étaient adaptées. Mais il y a eu un contournement, vous le dites très bien, il faut le savoir. Et le contournement, on voit avec par exemple la plateforme Uber qui s'est adaptée, on voit avec la plateforme Glovo aussi qui s'est adaptée. Et en fait, ça a vite déjanté faire quoi ? Vers un truc qui est encore pire que le statu quo finalement. Donc on a revu au rabais donc tout simplement les droits des travailleurs. Et c'est ça ce qui s'est passé. Même chose, il y a aussi la même chose qui s'est passée en Belgique. Il y a eu donc un dérivé de la directive européenne, même chose. Ça a été un couac. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on a renforcé cette directive européenne.
Antonio Casilli, donc ça fait ce qui nous attend quelque part, parce que après cette non mais je veux dire ce qui nous attend dans le sens où il va falloir que cette directive s'adapte au contexte de chaque pays. Donc, qu'est-ce qu'on peut imaginer sur le sol français ?
Alors, on peut imaginer d'abord que les plateformes ne soient pas ravies de la situation. Mmh. Et quand même, on peut dire que la directive donne une nouvelle arme aux travailleurs. Et la situation a changé par rapport à il y a quelques années, ou même il y a quelques mois. Parce que ce qui s'est passé en Espagne, c'est pas certain qu'on le reproduise ici en France. Le cas classique, par-delà ce qui est écrit dans la loi, certaines plateformes, comme par exemple une plateforme danoise qui s'appelle Ilfer, c'est pas une plateforme de livraison, c'est une plateforme de tâches ménagères, a décidé à un certain moment de proposer un modèle hybride, donc qui veut être salarié va devenir un travailleurs, Ilfer salariés, et les autres vont être Ilfer freelance. Et bien, à un certain moment, on a vu que la plateforme a tout fait pour saboter sa propre initiative et faire en sorte que une cour de justice danoise renverse ça. Alors, est-ce que maintenant pourront le faire en 2024, en 2025 ? Non, parce que la directive va empêcher ce type de comportement qui est un pas en avant, deux pas en arrière.
Sophie Bernard ?
Oui, juste pour compléter, parce que justement, on parle beaucoup de ce statut hybride, notamment, et notamment, ce qui est intéressant à noter, c'est un peu la position de la France par rapport aussi à cette présomption de salariat et à l'opposition de la France. C'est que ce qui est défendu par la France, c'est en fait de proposer un socle commun aux travailleurs indépendants et aux travailleurs salariés. Mais in fine, en réalité, c'est on propose quelque chose qui est en fait en deçà, qui propose beaucoup moins de droits, beaucoup moins de protections. protection pour l'ensemble. Donc en fait, on tend à invisibiliser, à remettre en cause en effet l'opposition travailleur, travail indépendant, travail salarié, mais pour en fait un modèle qui tend à dégrader la situation en réalité. De la majorité.
Pour revenir là-dessus, il faut savoir que vous parlez de la loi Rider, mais aussi en Belgique, ce qui s'est passé, ce sont des initiatives. Hein, donc, elles ont expérimenté eux-mêmes donc certaines choses. Moi, je rappelle qu'il y a eu un énorme travail sur cette directive européenne. J'ai eu la chance de travailler avec la LHIB, la députée européenne, qui a pu voir en fait s'adapter un peu à ce qui se passait à droite à gauche. Mais la directive actuelle n'a rien à voir en fait. Vous voyez, donc ça ne sera pas du tout un échec. Bien au contraire, ça malmène le modèle des plateformes numériques qui aujourd'hui vont devoir se plier tout simplement au texte, et le texte est très clair, c'est-à-dire que un, il y a un renversement de la charge de la preuve, on n'en parle pas.
Ouais, c'est ça, c'est intéressant important, à rappeler, effectivement.
C'est important, parce que ça permet tout simplement donc, de dire, c'est plus aux travailleurs de démontrer, mais à la plateforme de démontrer qu'on était indépendant. Donc ça, c'est important de le dire. Ensuite, la présomption de salariat, ben, chaque État membre va devoir s'adapter au droit national, donc ça, c'est important de le dire. Là, on le fait actuellement avec les procédures en cours, donc on conseille des prud'hommes, mais ça s'adapte très bien, on voit de très belles décisions. Il y a aussi la partie algorithmique, c'est-à-dire qu'on reprend le pouvoir là-dessus. Parce que moi, je m'attendais pas du tout à avoir autant d'avancées sur cette partie algorithmique, et c'est quand même énorme, c'est-à-dire que maintenant...
Il reste à savoir comment les contrôles vont s'opérer tout de même.
Bien sûr, après, oui, mais ça reste quand même une très grande avancée pour nous.
Est-ce que déjà c'est une reconnaissance et un aveu de ce qui se faisait déjà précédemment? D'ailleurs, ça l'a été autant que je crois qu'il y a un des cadres d'Uber qui a reconnu justement qu'il y avait une utilisation de ces données. Donc tout cela est très intéressant. Et vous, le modèle que vous prenez ou la voie que vous essayez d'ouvrir, c'est celle de la coopérative.
C'est ça, la coopérisation, j'appelle ça.
Aujourd'hui, c'est la coopérisation.
Oui, exactement. Ah ouais. Alternative à
l'ubérisation.
Exactement.
Right.
Okay. C'est un terme que j'emploie tout simplement.
Pour des levées de fonds, c'est ça, la Silicon Valley, c'est pour celle-là.
Forcément, non du tout, mais le modèle est basé sur la mutualisation de nos compétences, nos efforts et tout ça. Donc aujourd'hui, nous, dans la coopérative, on veut le partage donc de la valeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on a créé la coopérative, on ne voulait plus qu'il y ait des dissidents qui décident de tout. C'est-à-dire que ça se fait de manière collective. On appelle ça, nous, chez nous, le principe de la démocratie participative. C'est-à-dire que tout le monde va participer à construire l'entreprise qui est la coopérative. Et aujourd'hui, on va construire tout simplement ensemble les décisions. C'est pas comme Uber, de manière unilatérale, qui va décider des conditions de travail. Les conditions de travail sont décidées au sein de coopératives. Ça fonctionne très très bien, puisqu'aujourd'hui, on réunit plus de 500 sociétaires avec une base de plus de 6000 demandeurs. Mais ça, il faut le marché pour l'alimenter. Et donc, on le fait au fur et à mesure dans notre coopérative.
Et vous faites un peu de judo aussi, puisque vous utilisez la force et la puissance d'Uber pour la retourner contre la plateforme, puisque vous utilisez les données aussi.
C'est ça, exactement. Donc, on a fait l'acquisition des données. Effectivement, on a obtenu deux grands prix, dont le prix Citra. Pourquoi ? Parce que grâce à ces données-là, on a pu construire notre modèle et améliorer les conditions de travail des travailleurs. Je prends un exemple très simple. Un travailleur chez Uber, c'est 16 heures sur la route. 16 heures à rester des fois pour rien. Nous, on est capable, grâce à l'acquisition des données, de dire, dans tel secteur, il n'y aura pas de marché. Dans tel secteur, de telle heure à telle heure, ça ne sert strictement à rien de rester en attente. Donc voilà. Et ça permet un retour à la vie sociale des travailleurs. Comme par exemple, on a vu chez nous, dans notre coopérative, des gens qui disent, ah, mais j'ai repris une activité sportive. Je vois plus ma femme. Donc effectivement, c'est un modèle vertueux. C'est pour ça qu'on dit le modèle économique, social et solidaire.
Voilà, et vous voyez pourquoi j'ai parlé de judo justement, puisque ça permet d'avoir une pratique sportive.
C'est pas évident, ça.
Pour lui aussi, la chronique est un sport de combat, mais de combat élogieux et flatteur. C'est Marcus Dupont-Bénard. Bonsoir Marcus,
bonsoir,
bienvenue.
Bonsoir François.
Vous allez nous parler, vous, eh bien, d'une série de science-fiction, comme d'habitude, Docteur Who.
Oui, vous allez voir que les sujets de société rejoignent la pop culture, comme souvent. Doctor Who, c'est une institution britannique. 61 ans que l'on suit les aventures du Docteur, un alien seigneur du temps qui voyage dans le temps et l'espace pour résoudre des problèmes qui surviennent aux quatre coins de la Terre et de l'univers. Alors, je regarde cette série de science-fiction depuis l'adolescence et il y a beaucoup de choses évidemment que j'aime dedans, mais je dois vous confier qu'une scène en particulier m'a marqué quand je n'étais que lycéen, c'est celle-ci.
Des nuages de glace Shatter, l'idée, qui est-elle ?
Elle n'a pas d'importance.
Elle n'a pas d'importance. Ma parole, c'est incroyable. En 900 ans de voyage spatio-temporel, je n'ai encore jamais rencontré d'être qui n'avait pas d'importance.
C'est peut-être la leçon la plus forte de Doctor Who. Tout le monde est important et c'est beaucoup plus politique qu'il n'y paraît, tout comme cette série.
Ah oui, et en quoi cette série a un positionnement politique particulier ?
Eh bien, tout au long de ses voyages, le Docteur tombe sur des lieux et des époques qui ont besoin de son aide. Et il y a souvent des gens à sauver, avec parfois un rapport de pouvoir dans la balance. Des êtres puissants qui essayent d'utiliser ou d'abuser d'autres êtres. Typiquement, ses principaux ennemis sont des monstres comme les Daleks ou les Cybermen, dont les objectifs sont souvent la conquête totale ou l'assimilation des autres espèces par la force. Et même quand les enjeux sont plus grands qu'à l'échelle individuelle, le Docteur ramène le sujet aux invisibles, comme dans son discours culte au sujet de la guerre.
Lorsque vous tirez la première balle, même si vous pensez avoir une bonne raison, vous n'avez aucune idée de qui va mourir. Vous ne savez pas à qui sont les enfants qui vont hurler de douleur et mourir brûlés. Combien de cœurs brisés? Combien de vies anéanties? Combien de sang versé avant que tout le monde se rende compte de ce qu'il aurait fallu faire depuis le début? S'asseoir et se parler!
Alors beaucoup ne connaissent que la version moderne de la série, relancée en 2005, mais cette approche très politique de Doctor Who ne date pas d'hier. Dès 1973, on trouve un épisode qui décrit une grande entreprise dirigée par une grande machine dénuée de visage. Et cette boîte déverse des produits toxiques dans la nature, ce qui met en danger les villageois. L'épisode oppose un capitalisme technologique effréné et destructeur à des personnes qui veulent défendre la planète et auxquelles le Docteur vient en aide. Alors oui, Doctor Who est une œuvre anticapitaliste car ce monument britannique brille par son humanisme en redonnant un visage aux anonymes. Nous existons derrière les grosses machines et un système ne doit jamais oublier que toutes les vies comptent. Pour le Docteur, si certains sont sacrifiés au passage, alors ce système a besoin d'être soigné. On devrait garder ça en tête.
Merci beaucoup Marcus Dupont-Bénard pour cette chronique à retrouver évidemment sur l'application Radio France. Ça vous a fait sourire Antonio Gazzelli cette chronique de Marcus ?
C'était la première fois que j'entendais le Docteur Who en français.
C'est pour ça. C'était pas pour sa portée politique justement, parce que on retient dans la chronique de Marcus cette machine dénuée de visage. On peut facilement aller du côté d'Uber lorsqu'il en parle, et c'était intéressant justement de mieux connaître ce soir les visages de ceux qui se battent pour essayer de lutter contre cette grande machine. Mais ce qui m'intéresse ici, ce qui m'a plu, et peut-être pour une dernière note, Brahim Ben Ali, Sophie Bernard, c'est de voir finalement votre enthousiasme et une sorte d'espoir qui naît en ce moment.
Exactement. Il faut savoir que la directive européenne nous a redonné le sourire. Donc c'est l'arme nucléaire maintenant entre nos mains. Donc il faut savoir que le rapport de force a changé et ça va nous permettre de nous projeter. Parce que aujourd'hui les chauffeurs, les livreurs vivent des moments très difficiles. Donc on a une dégringolade totale des prix en ce moment. On n'en parle pas, mais c'est ce qui se passe. Donc je pense que c'est une réaction donc agressive des plateformes numérique suite à la directive européenne, mais c'était un énorme travail, c'est-à-dire qu'il y a quand même une union, dont une parlementaire que je salue au passage, qui est la députée Leïla Chaïbi. Si on n'avait pas
vous
eu
l'avez salué plusieurs fois,
mais ce
n'était pas la première fois.
C'est important de le dire parce que il y a personne qui s'était saisi de ces questions-là. C'est important de le ressouligner. Et aujourd'hui, il y a un autre travail. Il va falloir continuer. Donc, lors de la transposition de cette directive européenne, pour voir un peu ce qui va se passer.
Sophie Bernard, peut-être un dernier mot.
Ouais, peut-être un dernier mot justement parce que ce qu'on voit ici, c'est justement le visage de ces travailleurs invisibilisés. Qui gagnent en crédibilité justement, et aujourd'hui qui ont gagné un combat, par contre la lutte va continuer,
mais on a participé à rendre justement cet invisible un peu plus visible et à éclairer ses enjeux. Merci à tous les trois de m'avoir accompagné en chemin. Je renvoie évidemment à vos travaux respectifs à retrouver sur le site de Radio France. Je remercie à la préparation de cette émission Juliette Deveau, accompagnée par Ludine Storelli, à la réalisation exceptionnellement ce soir Félicie Faugère, accompagné par Ludovic Auger, à la technique son et à la vidéo, c'est Flavien Andréziac. Le meilleur des mondes, c'est terminé. Rendez-vous évidemment la semaine prochaine pour un nouvel épisode.